RFJ Info.
Le journal de Michel Léoni.
Bonjour, l'esplanade à Porrentruy se porte bien, merci pour lui. C'est le message transmis ce matin par les responsables du centre commercial. Un message teinté d'optimisme alors que trois anciennes de prêt-à-porter vont faire leurs valises. Dernier volet aujourd'hui de notre série sur les abeilles. On va s'intéresser aux menaces qui pèsent sur elles et vous entendrez qu'elles sont nombreuses. L'équipe de Suisse de hockey sur glace joue sans complexe. Elle a éliminé hier la Finlande pour s'ouvrir la porte des demi-finales du championnat du monde. Une performance remarquable qui doit beaucoup à l'audace du sélectionneur Patrick Fischer. Soleil et nuages se partageront le ciel ces prochaines heures avec avantage au soleil. Le mercure devrait grimper jusqu'à 18 degrés en pleine. Demain et les jours qui suivent, le temps sera plutôt agréable, mais des orages pourraient éclater, principalement sur les hauteurs. Les propriétaires de l'esplanade à Porrentruy tentent de calmer le jeu. Après l'annonce récente du départ de CEA, Fugel & Shoes et maintenant Tiley Whale, une certaine grogne était perceptible dans la clientèle. Aujourd'hui, les propriétaires de l'esplanade essaient, chiffres à l'appui, de désamorcer ces critiques. Vincent Jacquat.
Une fréquentation en hausse, une concurrence saine. Pour Marcel Séverin, un propriétaire de l'esplanade de Porrentruy, le centre se porte bien. Pourtant, plusieurs enseignes de prêt-à-porter ont annoncé leur départ. CEA, Vogel & Shoes et maintenant Tallywell, dont les locaux seront repris par le discounter Aldi. Un nouveau géant de l'alimentaire alors que la Migros et Denner occupent déjà une place importante dans le centre. Bien sûr, la direction de l'esplanade regrette ces départs, mais se réjouit que les locaux aient pu être repris rapidement. Pas d'inquiétude non plus de la part de Migros qui préfère avoir son concurrent à l'œil. Il n'empêche, Aldi va engloutir les locaux de trois enseignes. C'est donc bien une perte de diversité pour le centre et qui illustre bien la situation délicate des magasins de vêtements secoués depuis plusieurs années par le commerce en ligne.
L'arrivée d'Aldi à l'esplanade sera accompagnée de travaux dès début juillet pour une durée indéterminée. Le projet de rénovation de la patinoire d'Ajoie et de Clodidou reçoit le soutien de l'exécutif de Cornoles. Le conseil communal a pris position hier soir à l'unanimité en faveur du crédit de 20,3 millions ainsi que pour la réalisation d'un deuxième champ de glace pour un crédit complémentaire de 7,5 millions. Le conseil communal souligne que la commune peut assumer la prise en charge de l'augmentation des charges liées au projet et cela sans toucher à la quotité d'impôt. On termine aujourd'hui notre série sur l'apiculture avec les menaces qui pèsent sur les abeilles. Ces dernières sont nombreuses et la journée mondiale de l'abeille qui se déroule dimanche a justement pour objectif d'attirer l'attention sur les problématiques qui touchent les apiculteurs. En 20 ans, le taux de mortalité des abeilles est passé de 5 à 30%. Il est donc nécessaire de mettre tout en œuvre pour les protéger. Le responsable des projets apicoles pour la Fondation Rurale Interjurassienne nous détaille les menaces qui concernent les ruches de la région, Gérard Buchwalder.
La plus grande menace qu'on a, eh ben, c'est déjà la conduite du rucher qui amène du pillage. Le pillage, c'est une colonie qui attaque une autre colonie et puis qui va jusqu'à la destruction complète, si on n'arrive pas à la contenir, destruction complète d'une colonie. C'est la conduite du rucher qui est primordiale. Hein. Vous faites des erreurs, eh ben, ça se paye cash. Après, on a des menaces externes comme le varroa, qui est aussi une des principales causes de perte de colonies. C'est un acarien qui, à l'échelle humaine, vous fait un trou sur l'abeille comme si c'était une pièce de 5 francs que vous auriez sur le dos, donc un trou qui ne se referme jamais, porte ouverte à tous les virus ou maladies qui peuvent traîner dans le coin. Après, on a parlé du frelon asiatique. Personnellement, le frelon asiatique me fait moins peur pour les abeilles que pour l'humain, mais voilà quoi, l'avenir nous le dira puisqu'il est à notre porte. Puis un autre ravageur qui risque d'arriver, en tout cas qui se trouve dans le sud de l'Italie pour le moment, c'est le petit coléoptère qui, si le jour on l'a, moi j'arrête alors parce que ça sera une désolation totale dans ces ruchers avec des larves tout partout. C'est vraiment, quand on voit les photos de cet insecte-là, ça vous donne vraiment pas envie de garder des abeilles. J'espère aussi que les apiculteurs feront attention à ne pas acheter des abeilles à l'étranger pour pas ramener ce petit coléoptère chez nous.
Gérald Buchwalder au micro d'Alexandre Rosset. La Société d'apiculture des Franches-Montagnes sera présente dimanche de 10h à 16h au Centre Nature Les Serlatés. Le public pourra découvrir une ruche vitrée et déguster du miel. Les Franches-Montagnes s'exposent en noir et blanc. L'Office de la culture et les archives cantonales organise une exposition de photographies au Noirmont. Ils ont choisi un peu plus de 80 photos d'Eugène Catin. Ce facteur des Franches-Montagnes a immortalisé les paysages et les habitants du coin entre 1900 et 1918. Un travail sensible et humaniste. Caroline Toussaint a parcouru l'exposition.
À peine la porte de la nef du Noirmont franchie, Eugène Catin vous regarde. Son expression est neutre, il porte une moustache et une tenue de facteur. Ce grand autoportrait pris au début du XXe siècle est exposé au milieu de l'ancienne église, un moyen de rendre hommage à ce franc montagnard né en 1866 et mort en 1947. Eugène Catin était facteur, mais pendant ses tournées quotidiennes, il emmenait avec lui son appareil à soufflet. Au total, il a pris plus de 3100 photos. Antoine Glenzer, archiviste cantonal, nous parle de ces images.
Il y a deux types principaux de photos. Il y a celle que Eugène Catin faisait en lien avec sa tournée, donc il se déplaçait avec ses appareils, avec ses plaques de verre, et puis il photographiait la vie quotidienne. Et puis le deuxième type de photos, c'est celle qu'il a fait devant chez lui, dans ce qui, en quelque sorte, était un studio extérieur. On voit sur plusieurs photos qu'il a peint un mur de sa maison en blanc pour avoir plus de lumière et qu'il y a pas mal de photographies, notamment des portraits évidemment, qui sont pris depuis ce studio en extérieur.
Sur les 83 photos sélectionnées pour l'exposition, des femmes, des hommes, des enfants, certains travaillent à la construction de fermes, d'autres posent pour un portrait de famille et certains encore sont mis en scène comme dans un décor de théâtre. Or, de ces photos et de ces gens, on ne sait pas grand-chose, comme l'explique Antoine Glenzer.
On a mis en place dans l'exposition elle-même un atelier Wikimédia et on montrera aux gens comment ils peuvent directement, depuis chez eux, intervenir pour légender les photos, soit parce qu'ils ont reconnu quelqu'un, soit surtout parce qu'ils ont reconnu des lieux.
Les photographies d'Eugène Catin sont donc un concentré d'histoire, un moyen de voyager l'espace d'un instant dans les franches montagnes du siècle passé.
Et l'exposition Eugène Catin, facteur au bois et photographe, commence aujourd'hui. Un vernissage est organisé ce soir à la nef du Noirmont à 18h. Les images y sont exposées jusqu'au 16 juin prochain. La culture hispanophone au centre de la première journée nationale de lecture à haute voix. La bibliothèque municipale à Delémont s'engage pour cet événement. Elle propose demain de 10h à 11h30 des lectures partagées en espagnol entre adultes et enfants sur le thème du voyage. L'entrée est libre. À défaut de la passion qui avait entouré le scrutin fédéral du 4 mars sur Nobilag, la votation fédérale du 10 juin est pleine d'incertitudes. À 3 semaines de l'échéance, un sondage Tamedia, mes partisans et adversaires de la loi révisée sur les jeux d'argent à égalité, 47% de oui, 47% de non. Certes, la tendance est plutôt à la perte de terrain pour les référendaires, mais le suspense reste entier. Analyse à Berne avec Serge Jubin.
On a cru que la croisade anti-censure sur Internet des jeunes adversaires de la nouvelle loi sur les jeux d'argent serait un feu de paille. La loi soumise au peuple autorise certes les paris sur Internet, mais seulement sur les sites disposant d'une concession en Suisse. On se disait donc lors du lancement du référendum que la loi sur les jeux d'argent, fruit d'un compromis ménageant les intérêts des sociétés de loterie et des casinos, qui renforce la lutte contre l'addiction et consacre le versement d'une part des bénéfices à la culture, à l'AVS et au sport, que ce compromis convaincrait. Au final, la loi devrait passer la rampe car la tendance montre un renforcement du oui. Au début du mois, le sondage GFS donnait 52% de oui contre 39% de non. Il n'empêche, les jeux ne sont pas faits, ce d'autant que l'objet oppose frontalement les générations. Les plus jeunes ne comprennent pas la volonté de bloquer des sites internet. Sur le principe, ils n'hésitent pas à parler de censure et de dangereux précédents. Et sur la forme, ils savent qu'on peut aisément contourner l'interdit. Au-delà d'une affaire de jeux d'argent et de redistribution des bénéfices, la votation du 10 juin interroge aussi notre rapport à l'internet, aux offres en ligne et à leur accès sans entrave.
Et le sondage Tamedia donne par ailleurs perdant l'autre objet du 10 juin, l'initiative Monnaie Pleine, à 54% contre 39%. Un nouveau projet d'attentat déjoué en France. Les autorités françaises ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient mis la main sur deux jeunes Égyptiens. Ceux-ci s'apprêtaient à frapper à l'explosif ou avec un poison mortel. Leur cible n'a pas été précisée. L'effervescence monte en Grande-Bretagne à 24 heures du mariage du prince Harry avec Meghan Markle. C'est le prince Charles lui-même qui conduira la future mariée à l'hôtel. Selon une information diffusée aujourd'hui, le père de Meghan Markle ne sera pas à la cérémonie parce qu'il est en convalescence d'une opération du cœur.
RFJ, il est 12h25.
Le sport avec la Loterie Romande.
Le match de 3e ligue de football entre Develiers et Moutier a été entaché par un acte de violence hier soir. Le capitaine prévotois a giflé l'arbitre peu après le début de la seconde période. Craignant pour sa sécurité, l'homme en noir a interrompu la rencontre sur le score de 2-2 et il a été escorté jusqu'au vestiaire. Le joueur de Moutier risque une sanction importante. Alexandre Rosset.
Le capitaine prévotois devrait certainement écoper de plusieurs mois de suspension et d'une amende salée. La commission disciplinaire de l'association de football Bern-Jura sera saisie de l'affaire. C'est elle qui doit déterminer la sanction. Contrairement aux simples infractions ou comme une réclamation auprès de l'arbitre, le règlement ne définit pas expressément la sanction pour un tel acte. Elle dépend des circonstances du cas. La commission devra donc établir les faits et entendre les parties concernées. L'arbitre pourrait par ailleurs déposer plainte. Au niveau du jeu, la 2 de Moutier risque de perdre le match par forfait. Contacté ce matin, le président du FC Moutier déplore cet incident. John Daumont indique que le club ne peut pas accepter ce genre de comportement. Des sanctions seront prises. Une séance aura lieu ce week-end pour décider des suites à donner à cette affaire.
Et toujours en football, qui dit week-end de Pentecôte dit finale de Coupe jurassienne. Ce sera encore le cas cette année dans la région. Courtlary accueille demain les matchs des juniors A, B, C, D et FI, ainsi que le duel des seniors. Glovelier sera lundi le terrain hôte des rencontres des juniors E, des dames et des finales de 2e, 3e ligue et de 4e, 5e ligue. Le groupement junior à Joie Ouest pourrait frapper un grand coup cette année. Il va prendre part à 4 finales junior E, D, C et B, un scénario inédit dans l'histoire de la Coupe jurassienne. Comment expliquer une présence aussi nombreuse de ce groupement en finale? La réponse de sa responsable, Cassie Euvray.
Au niveau du travail, je pense qu'il a été fait avec les entraîneurs. Les jeunes, aussi un petit peu de chance quand même d'arriver jusqu'en finale. Quelques bonnes générations et puis ça fait la magie de la Coupe.
Le fait qu'il y ait ce groupement, justement, ça crée aussi une émulation au travers des équipes. On voit que les plus grands font un beau parcours en Coupe. Ça motive aussi un peu les plus jeunes ou inversement?
Oui, exactement. Les jeunes, entre eux, déjà se connaissent et puis discutent beaucoup. Une équipe de junior E ou de junior D qui est en finale a vite tendance à taquiner le grand frère qui est dans junior B, en junior C. Ah ben nous, on est en finale. Ah ben attends, nous, on y sera aussi. Donc c'est un petit peu ce jeu-là qu'ils ont. Il y a un peu de stress quand même, il y a de l'impatience. Voilà, une finale, comme je dis souvent, elle ne se joue pas, elle se gagne. Mais là, on voit que les jeunes, c'est ce qu'ils veulent, donc ils attendent que ça.
Même chez les juniors, on donne ce genre de phrase, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne?
On la donne, oui et non, mais c'est souvent les jeunes qui nous la sortent. Mes juniors à moi me disent, non Cassie, la finale, on ne va pas la jouer, on va pour la gagner. Donc voilà, ça commence déjà par les jeunes. Après, c'est toujours le plaisir de jouer. C'est ça qui est le plus important, à côté du résultat.
Cassie Euvray au micro de Mathieu Schaffner. Les finales de la Coupe jurassienne, c'est donc demain et lundi. Vous retrouvez toutes les affiches sur rfj.ch. Le circuit du Folpota au menu des cyclistes de la Coupe des Critériums. La 3e manche se tient ce soir à Souls. Les meilleurs concurrents se mesureront sur une boucle de 1300 mètres. Les enfants seront également à l'honneur et ce dès 19h. Une centaine de concurrents est attendu au départ. C'est l'un des plus beaux exploits de l'équipe de Suisse de hockey sur glace. La Nati s'est qualifiée hier pour les demi-finales du championnat du monde au Danemark. Elle a sorti la Finlande en l'emportant 3-2. Les Helvètes n'avaient plus pris la mesure de la sélection nordique depuis 1988 et les Jeux olympiques de Calgary. Pour retrouver trace d'une victoire helvétique sur la Finlande dans un mondial, il faut même remonter à 1972. La Suisse s'apprête donc à disputer sa 3e demi-finale mondiale et elle le doit beaucoup à l'audace de son sélectionneur Patrick Fischer, le commentaire de Mathieu Schaffner.
On se régale en voyant jouer cette équipe de Suisse. Du dynamisme, de la vitesse, un jeu offensif, la Nati ne se cache pas. Elle est en train de franchir un cap et elle le fait avec brio. Patrick Fischer a l'audace de faire jouer son équipe, de laisser le talent de ses hommes forts s'exprimer. Fini le temps où la Suisse ne faisait que défendre, place à une partition alléchante. L'audace de Patrick Fischer, c'est aussi de faire confiance à des joueurs en forme. Pas de Denis Solenstein, ni de Vincent Praplan dans cette sélection, mais des Enzo Corvi, Joël Vermeer, Lamine, Noiraud ou Tristan Chervet. Des choix forts ont été opérés. Cette sélection a été construite avec intelligence. L'audace encore de lancer des jeunes dans le grand bain. La Suisse affiche une moyenne d'âge de moins de 26 ans dans ce championnat du monde. On ne peut que s'en réjouir pour les années futures. L'audace enfin de se montrer patient. Le sélectionneur n'a pas ajouté de joueurs dans son alignement pour compenser la suspension de Sven Andrighetto en début de tournoi. Il a préféré garder les places supplémentaires pour d'éventuels renforts de NHL. Il en profite aujourd'hui avec les Josi, Fiala et autres Meyer. Autant d'audace payante donc pour cette Nati attrayante. Ça tombe bien, de l'audace, il en faudra une bonne dose demain pour sortir le Canada.
Et Suisse-Canada, ce sera demain donc à 19h15 à Copenhague. L'autre demi-finale opposera la Suède aux États-Unis à 15h15. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci Michel. L'info en continu, c'est sur rfj.ch, vous le savez. Un temps largement ensoleillé, avec des formations nuageuses toutefois qui prendront de l'ampleur cet après-midi à proximité des reliefs. C'est ce que prévoit Météo News pour la suite. Des averses ou orages seront possibles, mais localement. Et au mieux, il fera 15 degrés aux Franches-Montagnes et entre 18 et 20 en pleine. Demain, l'ensoleillement sera globalement bon avec un ciel plus partagé, voire menaçant sur les reliefs l'après-midi, donnant régionalement une averse ou un orage. Il fera entre 2 et 8 degrés en pleine, puis au mieux 15 à 1000 mètres, 18 en Ajoie et 20 dans la vallée.